France Inter, 7h.
France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Nous sommes le vendredi 17 janvier. Bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un chiffre, celui des violences sexuelles en forte hausse, plus 12% l'an dernier par rapport à 2018. C'est le résultat du service statistique du ministère de l'Intérieur. En clair, les femmes portent plainte plus facilement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les associations. On l'entendra dès le début du journal. Les autres titres, Hélène.
Après 6 semaines de conflit contre la réforme des retraites, la SNCF fait ses comptes mauvais, dit le PDG qui prévoit un plan d'économie. La grève, un sale prétexte, dénoncent déjà les syndicats. Et puis aussi, le restaurant mythique de Paul Bocuse sur les bords de Saône qui perd sa 3e étoile. L'Amazonie sera-t-elle bientôt une savane? Les conséquences de la déforestation. La Coupe de France, c'est du foot avec Marseille à Granville. L'OM sera-t-il généreux dans tous les sens du terme? Et Néandertal, qui appréciait visiblement les palourdes, ce sera la fin du journal.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, l'un de nos grands intellectuels, sociologue, médecin, Didier Fassin faisait hier son entrée au Collège de France. Il sera au micro d'Inter tout à l'heure. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter. L'affaire Weinstein et le mouvement MeToo sont passés par là. Résultat, les violences sexuelles en France augmentent, ou plutôt le nombre de plaintes augmente. Plus de 54 000 faits enregistrés l'an dernier dans les commissariats et les gendarmeries. C'est 12% de plus qu'en 2018, plus 19% même quand on parle de viol. Chiffre du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus de femmes victimes, ça veut seulement dire qu'elles osent parler et dénoncer. Une libération en enfin, pour Caroline Dehas, porte-parole du collectif Nous Toutes.
Ce qui augmente en 2019, ce sont les plaintes pour violences sexistes et sexuelles. Ça veut dire sans doute à la fois que les femmes se sont plus déplacées pour porter plainte et sans doute que leur parole a été prise plus au sérieux qu'auparavant. Donc c'est plutôt un signal positif parce que sous l'impulsion, sous la mobilisation des associations féministes, il y a manifestement eu un changement de comportement, sans doute pas encore complètement terminé, mais un début de changement de comportement dans les commissariats et des gendarmeries, dans la façon d'accueillir les plaintes des femmes victimes de violences. Est-ce que cela signifie que les choses sont réglées ? On n'en est pas du tout encore là. Le chemin pour faire en sorte que toutes les violences sexistes et sexuelles soient prises au sérieux, et surtout pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de violences sexistes ou sexuelles, le chemin est encore long.
Caroline Dehas, l'une des porte-paroles du collectif féministe Nous Toutes avec Delphine Evenou. On attend le bilan complet de ces violences pour le mois de mars, avec notamment un point précis sur les féminicides, ce qui n'est pas le cas avec cette synthèse publiée hier. Et dans la libération de la parole des femmes, il y a de ces symboles qui servent d'exemple. Adèle Haenel, l'actrice qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement quand elle était adolescente. Après 2 jours de garde à vue et une rapide confrontation, le réalisateur a été mis en examen hier pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et placé sous contrôle judiciaire. Des victimes qui brisent le silence, c'est ce qui se passe aussi depuis 3 jours devant le tribunal de Lyon. L'omerta sur la pédophilie dans l'église, au cœur du procès de l'ancien prêtre Bernard Prénat. Poursuivi pour agression sexuelle sur 10 d'enfants, il risque 10 ans de prison. Suite et fin du procès aujourd'hui avec le réquisitoire et les plaidoiries de la défense.
7h04 sur France Inter, la suite du journal. 6 semaines maintenant que dure le conflit contre la réforme des retraites, avec une journée de manifestation encore hier, Hélène.
Près de 190 000 personnes dans les rues un peu partout en France, selon les chiffres du ministère. C'est plus que samedi dernier, mais c'est aussi beaucoup moins que la manifestation du 9 janvier. Si la mobilisation s'essouffle, la détermination demeure. Les syndicats qui demandent le retrait du texte ont déjà appelé à défiler vendredi prochain, jour de présentation de la réforme au Conseil des ministres, dans une semaine tout pile donc. En attendant, eh bien, la grève passe et laisse sa trace. La SNCF a fait ses comptes. Plus d'un mois de grève, c'est presque 1 milliard d'euros de perdu, 850 millions jusqu'ici. Le PDG Jean-Pierre Farandou explique qu'il va lancer un plan d'économie le mois prochain pour boucher le trou. Pas de suppression d'emplois sur le terrain, mais plutôt des cessions d'actifs. La grève a bon dos, dénoncent les syndicats. Maxime Deps.
Faire le lien entre une grève et des mesures d'économie qui en résulteraient, la tactique est ancienne, sourit un syndicaliste réformiste qui ne néglige pas l'impact financier après 44 jours de blocage dans les transports, mais quand même, ce plan dont parle Jean-Pierre Farandou aurait eu lieu quoi qu'il arrive. Pour ça, faut-il encore se rappeler du printemps 2018 pour désamorcer la fameuse grève en pointillés qui s'était étirée jusqu'au début de l'été Édouard Philippe avait proposé que l'État reprenne la dette de la SNCF, 35 milliards d'euros, le tout en échange de contrepartie que l'entreprise accroisse sa productivité. On y est dans une forme de continuité de ce qui se fait à la SNCF depuis des années. À l'époque, le gouvernement avait fait passer cette reprise de la dette pour une fleur faite aux cheminots, alors que cette dette pour les syndicats résulte surtout de décisions imposées par l'État pour le développement d'un réseau ferroviaire qui fait parfois débat. Là, on nous culpabilise encore une fois, déplore un syndicaliste. Même si c'est vrai que la grève aura un impact certain, il ne s'agirait pas de tout mélanger.
Et sur les rails, ça roule aujourd'hui, trafic TGV quasi normal. On ne l'a jamais vu dans les cortèges, son opposition à la réforme des retraites, elle préfère la dire dans un micro. Marine Le Pen et ses vœux à la presse hier. La présidente du RN en a profité pour confirmer qu'elle était bien en route pour la présidentielle 2022. Une autre façon de polariser le débat et de faire du match Macron-Le Pen l'enjeu aussi des municipales. Maxence Lambrecq.
Il faut déjà que les Français se projettent vers 2022, estime Marine Le Pen.
Nous sommes entrés dans une phase pré-présidentielle.
Macron est déjà en campagne, ajoute-t-elle hors micro. Je ne vais pas le lâcher, le laisser courir tout seul. Marine Le Pen veut rester la première opposante, recueillir la colère, alimenter ce duel, bientôt sur la sécurité, demain sur le climat, prendre aussi une longueur d'avance sur la droite, acter le retrait de sa nièce, Marion Maréchal, et en finir avec les débats sur son manque de motivation, même si elle joue la carte du devoir.
Je sais combien les charges à haute responsabilité sont des prisons par ailleurs moins dorées qu'on ne le croit.
Grâce à sa casquette de candidate dans cette prison, elle compte pousser plus de portes, élargir son réseau, identifier de futurs ministres. Je présenterai avant l'élection ceux qui incarneront ma politique pénale, économique. Mais c'est aussi un calcul à plus court terme. Marine Le Pen veut politiser cette séquence municipale, en faire une étape vers la présidentielle et non un simple scrutin local. Ça devrait mobiliser davantage notre électorat, justifie un de ses proches. Attention à ne pas installer le match trop tôt, alerte un autre. Les Français pourraient s'en lasser. Et en 2027, sera-t-elle candidate ?
Oh là, ce genre de déclaration, en règle générale, vous fait toujours mentir. Il va bien falloir que je me présente à ma réélection.
Elle a bien enfilé le costume et les pirouettes qui vont avec.
Maxence Lambrecq. Et puis à propos des retraites, cette info qui nous vient du Chili, un pays qui s'appuie depuis les années 70 sur un système de capitalisation entièrement individualisé. Le Chili donc va injecter un brin de solidarité, un soupçon de répartition. Le gouvernement conservateur, le dos au mur après des mois de contestation, va augmenter les cotisations patronales. Promesse du président chilien hier. Allez, on reste en Amérique latine. Au Brésil, la déforestation toujours au cœur des préoccupations. En hausse de 85% sur un an. À qui la faute ? Pour les spécialistes, pas de doute, un seul coupable, le président Bolsonaro, avec des conséquences qui dépassent largement les frontières du Brésil. C'est un reportage à Rio de la correspondante de France Inter, Anna Vigna.
Chaque mois, les chiffres de la déforestation en Amazonie renforcent les craintes des scientifiques sur l'imminence d'une catastrophe. Certains considèrent qu'on est en train d'atteindre le redouté point de non-retour. Ce fameux point signifie que l'Amazonie pourrait se transformer en savane, car la déforestation provoque aussi des sécheresses et des incendies. Un résultat d'autant plus malheureux que le Brésil était sur la bonne voie, rappelle Clarissa Gondour, elle est chercheuse à l'Institut pour les politiques climatiques à Rio de Janeiro.
Les 15 dernières années, le Brésil a connu un immense succès dans le combat contre la déforestation. Le pays avait réussi à réduire de près de 80% son taux de déforestation.
Jair Bolsonaro a énormément réduit les effectifs de la police de l'environnement et sans cesse critiqué leurs actions et punitions. Du coup, la déforestation a augmenté en flèche.
Malheureusement, ce qu'on constate, c'est une destruction de ce qui fonctionne. C'est un cercle vicieux, car on fait comprendre que l'illégalité est permise. Du coup, on a de la déforestation et il n'y a aucune punition. Et cela peut empirer très vite.
Aujourd'hui, le gouvernement brésilien accuse les scientifiques et les ONG d'exagérer la hausse de la déforestation. Une manière de détourner le regard de cette tragédie qui approche pourtant à grands pas. Rio de Janeiro, Anvinia, France Inter.
De la pluie et un répit. En Australie, forte précipitation depuis 48 heures. Un coup de pouce pour les pompiers exténués après des mois de combat contre les incendies. Des feux qui se comptent encore par dizaines dans l'est du pays. On apprend ce matin que contrairement à ce qu'avait dit Donald Trump, 11 soldats américains ont bien été blessés dans l'attaque par l'Iran la semaine dernière d'une base aérienne en Irak. En bref encore, les États-Unis et tout va bien au royaume des GAFA. Merci. Alphabet, la maison mère de Google, Google est devenue hier, à la clôture de la bourse à New York, la quatrième entreprise américaine à dépasser les 1000 milliards de valeur à Wall Street. Un club restreint qui compte Apple, Microsoft ou encore Amazon.
De l'argent, du foot et des traditions qui se perdent, Hélène.
Les riches laissent leur part aux plus pauvres. C'est un peu le classique de la Coupe de France. À propos, hier, c'est le petit qui a mangé le gros. Pau, 3e division, bat Bordeaux, club de Ligue 1 en 16e de finale, 3-2 après prolongation. Mais la vraie question ce soir pour le prochain match, Marseille est à Granville, c'est l'OM. L'OM partira-t-il avec la caisse comme il l'a fait contre le petit club de Trélissac? Les Marseillais ne sont pas les premiers à le faire, mais vous vous en doutez, c'est toujours aussi mal vécu par les amateurs. Cédric Guillou.
Aller loin en Coupe de France pour les clubs amateurs est une aubaine financière, en plus évidemment d'être réjouissant sportivement. Il y a la dotation de la Fédération Française de Football, 102 500 euros pour une qualification pour les 16e de finale, et donc généralement quelques milliers d'euros en plus quand le club professionnel laisse sa part de billetterie. Jean-Pierre Augis, président de Saint-Privé-Saint-Hilaire, National 2, qui recevra l'AS Monaco lundi soir.
Je crois que le budget de Monaco, j'ai regardé, 215 millions d'euros. Nous, à peine 800 000. Après, c'est un choix de président.
Dans les textes, les clubs professionnels n'ont en effet aucune obligation de se montrer généreux avec les amateurs. Le règlement prévoit que la recette de billetterie est répartie à part égale entre les clubs, après déduction de la TVA et des frais d'organisation du club receveur. Et ça, il faudrait que ça change pour Johan Gallon, entraîneur du club de National 2 de Granville.
Pour plus qu'il y ait de problème, il faut changer de règlement. Donc une proposition, c'est que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, quand ils jouent une équipe amateur, qu'ils soient obligés de laisser la recette.
Et ils sont nombreux à demander à la Fédération Française de Football de sortir de la règle du 50-50 et de définir un partage conditionné par le nombre de divisions d'écart.
Et parce que le passé éclaire toujours l'avenir, des nouvelles de Néandertal ce matin, un être archaïque, pas très dégrossi, eh bien non, Néandertal, disparu il y a 30 000 ans, n'était pas une brute épaisse. Dernière étude en date, celle de chercheurs italiens, qui découvrent que pour faire des grattoirs à base de coquillages, Néandertal avait appris, Sophie Becherel, avait appris à plonger.
Que faisaient les Néandertaliens à la plage? Un barbecue de crabe? Une sieste en écoutant la mer? Une partie de foot? Quand on est archéologue, la réponse ne vient pas en regardant le coucher de soleil, mais en analysant les couches géologiques et ce qu'on y trouve dedans. En l'occurrence, des coquilles de palourdes trouvées dans la grotte des Moscherini, 14 couches de l'époque moustérienne, justement celle de Néandertal. Déjà, il avait été montré par d'autres scientifiques que la pêche était une activité courante des Néandertaliens. Cette nouvelle étude s'est intéressée à la forme des coquilles, des palourdes qui ont 90 000 à 100 000 ans, et selon l'équipe italienne qui a publié dans PLOS ONE, si certains ont été ramassés sur la plage, déjà polis par les vagues, un quart des coquillages proviennent du fond de la mer. Les palourdes ont été pêchées vivantes, cela suppose que les hommes de la préhistoire ont plongé jusqu'à 4 mètres de fond. Dans la grotte, il y avait d'ailleurs plus d'outils à base de coquillages que de pierres. Preuve, une fois encore, qu'Homo sapiens n'a pas le monopole des comportements dits modernes. Il y a 100 000 ans, en Italie, Néandertal a eu l'audace de braver la mer pour lui voler de précieuses palourdes.
Voilà, on a tous quelque chose de Néandertal. Enfin, 2 ans, presque jour pour jour, après la mort de Paul Bocuse, son mythique restaurant des bords de Saône perd une étoile. Le restaurant Paul Bocuse de Collonges au Mont d'Or, près de Lyon, rétrogradé à 2 étoiles par le guide Michelin. Les gens du guide ne savent plus manger. Décision absurde. Certains critiques gastronomiques s'insurgent. Je vous l'entendrai tout à l'heure dans le journal de 8h.
Merci Hélène Roussel.